Bonsoir, Ray.
Bonsoir, Mario.
Es-tu excité que ça reparte, la NFL? On dirait qu'on est dans une espèce de creux. Là. On s'en vient dans le crunch dans le baseball majeur. Ici, localement, les Alouettes sont en pause. L'Impact est en pause. Le Canadien, évidemment, pas besoin d'en dire davantage. Ça va repartir bientôt. Alors, on est prêt, on est mûr. On attend que la NFL nous divertisse. Ça commence demain.
Quoi qu'on en dise, Mario, la NFL, c'est la plus grande ligue en Amérique du Nord. Le football, c'est la passion des Américains. Ça commence demain soir, Falcons, Eagles, à NBC à 8h20. C'est le kick-off, le début de la saison, le botté d'envol pour la saison de la NFL. Puis ça va se terminer au mois de février prochain, à Atlanta, justement, au Mercedes-Benz Stadium pour le 53e Super Bowl. Je vais te parler de la NFL rapidement pour faire un tour d'horizon des chiffres. Ils ont eu des revenus de 14 milliards de dollars US l'an dernier. Leur objectif demeure celui de Roger Goodell, 25 milliards de dollars d'ici 2027. Alors, tu comprends que cette ligue-là, c'est dans une autre galaxie en termes de revenus et en termes de dollars. Et pourtant, c'est encore des joueurs qui jouent sans contrat garanti. Et il y a un cap salarial très élevé, là. C'est 177 millions de dollars. Tu as 53 à 55 joueurs sur l'alignement. Mais les joueurs ne sont pas protégés comme ils sont au hockey, comme ils sont dans l'NBA. Alors, ça demeure une ligue qui a le plus d'argent et de richesse, Mario, mais c'est la ligue qui paye le moins parmi les quatre grandes ligues en Amérique du Nord en moyenne de salaire par joueur. Moins que dans le hockey de la Ligue nationale. C'est incroyable.
C'est vraiment incroyable. Et les carrières, les joueurs ne font qu'y passer parfois aussi compte tenu du fait que c'est un sport avec évidemment un maximum de contacts ou des blessures, mettre fin à des carrières très rapidement. Il y en a qui ont de longues carrières, mais et c'est eux qui prennent toute la place médiatique. On peut penser à Tom Brady ou des quarts arrière, des Roethlisberger, Brett Favre n'est plus là, des Aaron Rodgers et compagnie. Mais c'est le show est bâti autour de quelques personnalités, ce qui fait que le téléspectateur s'en rend plus ou moins compte que les autres ne font que passer, hein?
Exactement. Puis, tu sais, quand on regarde la NFL, c'est pour ça qu'on voit de plus en plus des gros contrats qui sont alloués, mais la somme qu'on souligne surtout, c'est l'argent garanti. Parce que là, les équipes sont obligées de s'engager à garantir une grande portion du contrat. Je pense à un gars qui a été échangé la semaine dernière, là, Khalil Mack, des Raiders d'Oakland jusqu'aux Bears de Chicago, un échange à un sens. Là, les Bears ont eu l'avantage complet parce que Khalil Mack, c'est un des meilleurs joueurs défensifs de la NFL. Puis, en retour, il y a eu un paquet de choix de repêchage qui sont loin d'être prouvés. Mais tu sais, dans son contrat de 140 millions, qui fait en sorte que c'est le joueur le mieux payé parmi les joueurs défensifs de l'histoire de la NFL, c'est pas 140 millions qui est garanti. Alors, tu sais, c'est encore une fois la question de comment la NFL a toujours pris une position de domination vis-à-vis les joueurs. C'est pas équitable encore. L'association des joueurs de la NFL se bat continuellement avec Roger Goodell et avec les propriétaires pour justement arriver à plus de parité. Au côté du niveau des joueurs à surveiller, là, deux, trois éléments importants en début de saison. D'abord, les champions du Super Bowl, les Eagles, là, le débat entre les quarts arrière, Nick Foles et Carson Wentz. Ça va être intéressant de savoir parce que Foles était le substitut l'an dernier. Il a emmené les Eagles jusqu'au Super Bowl. Carson Wentz est en santé cette année. On va voir à quel moment ils vont changer de quart arrière. C'est l'arrivée de Saquon Barkley avec les Giants de New York et de Baker Mayfield, le quart arrière des Browns de Cleveland. Rappelle-toi, les Browns, 16 défaites l'an dernier en 16 matchs. Là, ils ont un quart arrière, gagnant du trophée Heisman à Oklahoma, Baker Mayfield, puis on a déjà beaucoup d'espoir de faire renaître cette concession-là. Alors, ça fait partie des bonnes nouvelles. Les grands enjeux, deux, trois points importants, Mario. L'image de la Ligue souffre beaucoup. On va y revenir dans deux, trois minutes, parler de Colin Kaepernick. Mais le problème d'image de la NFL, c'est un problème de comportement, c'est un problème de joueurs, de violence conjugale, c'est un problème justement de l'hymne national, ce dossier de protège qui n'est pas réglé. Ensuite, tu as les blessures à la tête. La NFL a octroyé une somme de 765 millions de dollars pour les causes collectives du passé de joueurs qui sont affectés par les blessures à la tête. Et ça, c'est un chiffre là, vraiment trop bas pour l'ensemble des blessures des joueurs de l'histoire de la NFL. Parce que le problème de blessure à la tête ne continue d'augmenter et on doit de plus en plus tenter de modifier les règlements, Mario, pour affecter le football et faire en sorte que les joueurs sont plus protégés. Deux autres points pour terminer. Les Raiders d'Oakland sont en chicane avec la ville d'Oakland. On sait qu'ils vont déménager à Las Vegas en 2020. Le stade est en construction, sauf qu'ils n'ont pas de stade pour l'an prochain. Puis là, la ville va les actionner jusqu'à 500 millions de dollars. Alors, les Raiders vont peut-être être dans une situation où ils vont devoir quitter Oakland dès l'an prochain et se trouver un autre stade temporaire le temps d'une saison ou deux que leur stade à Vegas soit prêt. Ça, c'est pas facile pour une équipe qui est un peu une équipe là, sans domicile. Puis le dernier point, là, en termes de nouvelles importantes, c'est que le State Farm Stadium est le nouveau domicile des Cardinals d'Arizona. State Farm a pris la relève du University of Phoenix Stadium. C'est le même stade, renommé, ce qu'on appelle la dénomination d'un stade. C'est 8 millions de dollars par année que les Cardinals vont recevoir de State Farm. C'est une entente de 18 ans. Bon, ça te rappelle encore une fois l'importance de la NFL en termes de business, parce que je te rappelle qu'en début de chaque saison, la NFL remet un chèque de 255 millions de dollars US à chacune de ses 32 équipes pour commencer la saison. Ça, c'est la répartition des profits de la saison précédente. Alors, tu commences bien la saison quand quelqu'un te donne un chèque de 255 millions de dollars.
Avec un plafond salarial de 177 millions, ça veut dire que juste la péréquation règle ta masse salariale, puis il t'en reste.
Il t'en reste. T'as pas besoin de vendre un seul billet dans le stade, Mario. Les équipes de la NFL sont en excellente santé. Certaines vont mieux que d'autres, bien entendu, mais c'est des chiffres qui sont astronomiques.
Ben vraiment, vraiment. Par rapport à l'aspect commercial de la Ligue, bon, c'est sûr que eux autres aussi tentent de réagir à toutes les turbulences, puis à tout ce qui les accable, à tout ce qui vient affecter leur image. Qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire? Penses-tu qu'il y a eu des réflexions, une introspection de la part du commissaire Goodell et des propriétaires de façon à répliquer de façon positive, sans attendre que ce soit Trump qui, par ricochet, dirige la NFL avec ses tweets, là?
Ça a été très difficile l'an dernier, Mario, t'as tout à fait raison, parce que Trump a pointé du doigt la NFL et son leadership, et de là directement Roger Goodell. Jerry Jones, on le sait, a été en dispute toute l'année avec Roger Goodell parce qu'il ne voulait pas sanctionner sa prolongation de contrat à 40 millions par année. Tu comprends que Roger Goodell est bien payé, mais sa ligue est très riche. Alors, dans un cas comme ça, t'as pas le choix que de reconnaître puis récompenser le leader de la ligue, parce que il est partiellement responsable des succès financiers, économiques de la NFL. Mais cependant, c'est pas facile, parce que les joueurs ont de la difficulté dans leur comportement. Les équipes ont eu des frasques de violence puis de toutes sortes de joueurs qui ont été arrêtés et ainsi de suite dans leur vie respective civile. Et évidemment, tu as le dossier des protêts de l'hymne national, qui est un dossier qui est toujours en suspens. Puis là, on peut arriver sur Kaepernick puis Nike, mais le problème, c'est que l'hymne national va avoir lieu demain soir et tout le week-end, et on s'attend tous à ce qu'il y ait encore une fois des réactions civilisées, mais des réactions. Et les réactions des joueurs causent des réactions chez les consommateurs, chez les partisans.
Est-ce que ça va être télédiffusé demain? Parce que selon les diffuseurs, on a des politiques différentes. Est-ce que pour le match d'ouverture, l'hymne national va être diffusé? C'est sûr que tout le monde va observer les comportements.
Oui, j'ai la réponse pour ESPN pour te dire que Monday Night Football ne diffusera pas, mais j'ai pas la réponse pour NBC Sports qui diffuse demain soir. De toute façon, moi, si j'étais un partenaire de la NFL, j'essaierais d'aider la Ligue, justement, à ne pas augmenter le niveau d'intensité. Mais que ce soit diffusé ou non, ça va être rapporté dans les médias deux secondes après. Et évidemment, les 80 000 personnes dans un stade vont être témoins de ce qui se passe sur les abords du terrain. Mario, c'est pas une situation facile, parce qu'à la fin, on comprend qu'une manifestation politique n'a pas vraiment sa place lors d'un match de football. Puis ce sont des employés d'équipe de la NFL qui gagnent un salaire. Mais d'un autre côté, on comprend aussi que les joueurs ont une certaine liberté. Puis c'est pas bon d'avoir toujours un affrontement entre les dirigeants d'une entreprise et les employés de l'entreprise, c'est-à-dire les propriétaires et les joueurs.
Just Do It, c'est la campagne lancée il y a bien des années de cela par Nike. On souligne le 30e anniversaire. Je rappelle aux gens que, bon, c'était difficile de le manquer, là, mais qu'on a choisi Colin Kaepernick comme porte-parole, comme figure de la campagne autour du 30e anniversaire. Et après avoir dévoilé l'identité de celui qui allait en être, qui allait l'incarner, cette campagne-là, aujourd'hui, on a diffusé une vidéo de 2 minutes dont voici un extrait. Et la voix que vous entendez est celle de Kaepernick qui en est le narrateur.
When they talk about the greatest team in the history of the sport, make sure it's your team. If you have only one hand, don't just watch football. Play it at the highest level. And if you're a girl from Compton, don't just become a tennis player. Become the greatest athlete ever. Yeah, that's more like it. So don't ask if your dreams are crazy. Ask if they're crazy enough.
Et à ce moment-là de la vidéo, là, la dernière phrase, on voit vraiment en gros plan le visage de Kaepernick qui regarde la caméra, qui regarde le téléspectateur, qui dit ne vous demandez pas si votre rêve est fou, demandez-vous si vous êtes assez fou pour votre rêve. Et donc, pendant 2 minutes, ce sont des images d'athlètes qui, pour la plupart, je pense, sont avec Nike en tant que partenaire média ou ambassadeur, si tu veux, de la marque, mais des gens très inspirants, de LeBron James au jeune Davies qui a 16 ans joué pour l'équipe canadienne de soccer. Bref, c'est... Je ne sais pas ce que tu en as pensé de la vidéo et aussi toutes les réactions que ça continue de provoquer, Ray.
Oui, Mario, écoute, c'est un. Je l'ai dit hier, là, c'est un mouvement. C'est le mouvement Colin Kaepernick. C'est le mouvement Nike. Les deux se sont associés pour une raison précise. Dans le cas de Nike, poursuivre son espèce de révolution, son espèce de mouvement anticonformiste et évidemment de faire de l'argent. Alors ça, c'est Nike. Dans le cas de Kaepernick, il a peut-être joué son dernier match dans la NFL comme quart arrière, lancé sa dernière passe ou sa dernière interception, mais moi, je vais te dire que le leg de Kaepernick ne fait que commencer. On va entendre parler de Colin Kaepernick pendant des années, bien après qu'on ait terminé nos carrières respectives, Mario, parce qu'il va être l'inspiration pour du changement, pour du dialogue dans la société américaine. Hier seulement, l'effet Kaepernick a généré 43 millions de dollars US en publicité gratuite à cause de tout le mouvement Kaepernick puis Nike. Alors déjà, là, je suis obligé de dire que Nike n'a eu que leur argent.
Ben,
déjà, là.
C'est ça que on je me disais.
Ben oui, on est d'accord, Mario, que certains individus un petit peu bizarres là, ont décidé de brûler leurs chaussures Nike qui avaient dépensé des centaines de dollars. Pas trop brillant, là, selon moi, là, d'aller jusqu'à ce point-là pour passer un petit message pour être célèbre pendant 2 minutes sur YouTube. Mais je peux te dire une chose, c'est que même si certains, respectueusement, ont le droit de protester et de dire qu'ils sont pas d'accord, puis je le respecte, il y a une chose qui est claire, c'est que Nike va toucher la corde sensible chez sa jeune clientèle, Mario. Et cette jeune clientèle-là, c'est celle-là que Nike aspire à convertir, à emmener du côté de son produit, de sa marque, de son message et de Colin Kaepernick. Alors, c'est difficile parfois pour certains d'accepter, mais Nike n'est pas devenu maître mondial dans la mise en marché sans avoir réfléchi stratégiquement et sans avoir des génies derrière toute leur espèce de campagne. Alors, aujourd'hui, là, cette pub-là, exceptionnelle. Parce que tu sais quoi, c'est inspirant, c'est motivant et ça touche les jeunes. Et ces jeunes-là, eux, réagissent. Ils se balancent des chaussures, puis des parents, puis de ce que le monde dit dans les médias. Ils sont touchés par ce message-là de Nike.
Oui, et ce qui est intéressant dans la stratégie, c'est qu'on a dévoilé d'abord l'identité de celui qui en était le porte-étendard, Kaepernick, et donc là, on a pu accueillir, je le dis entre guillemets, avec un sourire en coin, la première salve, les tirs groupés de tous les opposants au mouvement Nike Kaepernick. Mais là, en lançant la vidéo au lendemain des premières salves, ça oblige tous les adversaires, tous ceux qui sont irrités par la campagne, à encore réagir. Mais la campagne va... En tout cas, je pense que la campagne va durer peut-être plus longtemps que la présidence de Trump, en ce sens qu'à un moment donné, lui ne sera plus dans le décor, puis Nike va encore vendre des chaussures, Ray. Hein?
Ouais, je pourrais pas le dire mieux que ça, Mario, parce qu'honnêtement, là, écoute, il y a un risque financier pour Nike. Ils ont perdu 3% sur le marché boursier hier. C'est une compagnie là qui vaut 128 millions, milliards, pardon, excuse-moi, de dollars. Calcule 3% de ça rapidement, là. Ça coûte cher, là. Mais c'est quoi? C'est parce qu'ils y croient fondamentalement. Ils sont passionnés par leur message, Mario. Et ils savent très bien qu'ultimement, ça va générer l'espèce d'amour, puis de culture, puis d'engagement émotif avec leur marque. Sans contredit.
Ray, sur ce, un gros merci encore une fois. Et demain, l'aspect football avec Bruno Eppel de cette nouvelle saison de la NFL. Merci beaucoup de ta contribution encore une fois ce soir, Ray.
Salut, Mario.